journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, bienvenue dans l'émission où vous avez la parole. Pour intervenir en direct, composez maintenant le 01 55 07 58 00 et le 00 33 1 55 07 58 00 si vous êtes hors de France, bien sûr. Aujourd'hui, dans le JDA, le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire Iran, c'était une promesse de campagne du président Donald Trump, c'est désormais une réalité. Les États-Unis ont annoncé hier soir vouloir sortir de l'accord sur le nucléaire iranien et rétablir les sanctions contre ce pays. Un des seuls pays à soutenir ce retrait, c'est Israël, qui a, dans la foulée, tiré des missiles sur les positions iraniennes en Syrie, selon Damas. Pour de nombreux observateurs, cette décision ouvre une période d'incertitude dans le champ des relations internationales. Alors, quelles en seront les conséquences? Pour répondre à toutes vos questions, pour en parler, nous serons par téléphone avec Emmanuel Dupuis, directeur de l'IPSE, c'est l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Je rappelle le numéro pour intervenir, 01 55 07 58 0. Avant de recueillir vos commentaires en direct, on se tourne sans plus tarder vers le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter une sélection de vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Cher ami du JDA et Madame Atman, bonjour. Je me permets d'intervenir aujourd'hui, c'est suite à la mort de cette petite fille, Noémie. Ben, je suis vraiment très triste et très outré. Avant toute chose, je préfère présenter mes condoléances à la famille Moussenga. Vraiment, c'est étonnant quand même, dans un grand pays comme la France, une négligence pareille. Vraiment, je déplore cette situation. J'espère que ça ne va pas rester impuni. Il va falloir qu'on se mobilise. Vraiment, ma tristesse est tellement grande. Bien des choses à tout le monde, que Dieu bénisse tout le monde, à très bientôt, Dieu donne Kassongo. Ciao, ciao.
Bonjour Madame Hartmann, bonjour les amis des JDA, bonjour les peuples africains et tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Le Congo, peuple congolais, nous allons les libérer par la résistance. Je dis tous les jours, ne restons pas derrière les politiciens, ne restons pas derrière les partis politiques, comme ici en France. Et à la droite et à gauche, mais le peuple n'a pas choisi un dirigeant de droite ou bien de la gauche, mais a choisi une personne qui n'avait pas un parti politique. C'est pour cela, peuple congolais, venez rejoindre la résistance pour le Congo qui est occupé par Paul Kagame, qui veut détruire, qui veut massacrer. Il continue toujours à faire des choses qui ne conviennent pas au monde, à la République démocratique du Congo. Venez rejoindre la résistance pour la libération de la RDC.
Bonjour Madame Stéphane Hartmann, Congolais et Congolaise de la RDC. Les élections présidentielles pour le changement, c'est maintenant. Kabila n'a plus le droit de se présenter et la RDC n'est pas un royaume. Donc, tous ceux qui ont travaillé avec les occupants vont être radiés du mouvement. C'est tout. Monsieur Francis Kalombo qui vient de poser sa démission, il n'est plus membre du PPRD depuis le 7 mai 2018. En même temps, il n'est plus député. Donc, tous ces gens-là, on veut de voir maintenant ces traîtres, ceux qui ont détruit le pays. Donc, et maintenant, il fait semblant d'être à côté avec Moïse Katumbi. Il croit que Katumbi va diriger le pays. Nous, Congolais, nous disons non, le pays va être gouverné par un vrai fils du pays. Né au Congo, du père et du mère, surtout qu'il soit du Bas-Congo ou du Bandundu ou du Kassai. Fini, plus des occupants au Congo. Merci, c'est un faux moment. Ciao.
Oui, bonjour auditeur d'Afrique numéro 1. Bonjour Madame Hartmann. J'ai l'impression que le monde ne se rend pas compte que Donald Trump est à la fois fou et en même temps très dangereux. America First, c'est la version de Deutschland über alles, connu avec Hitler, parce que sorti de tous les droits, de tous les chemins qui ont été confectionnés par le droit international pour bombarder la comme il a fait et sortir maintenant du traité signé avec l'Iran, où va-t-on? Allez, à chacun de penser. Bonne journée.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Merci à Mandile Pofou qui les a sélectionnés et montés aujourd'hui dans le JDA, donc le retrait des États-Unis, l'accord sur le nucléaire iranien. Nous en parlons tout de suite avec Emmanuel Dupuis, directeur de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Emmanuel Dupuis, bonjour.
Bonjour, Stéphanie.
Alors, merci d'être avec nous pour justement parler de cet accord qui avait été signé 15 par l'Iran et ses grandes puissances. On rappelle la France, le Royaume-Uni, USA, Chine, Russie et Allemagne. Cet accord avait été obtenu par Barack Obama à l'issue d'une longue négociation. Il prend une suspension du programme nucléaire iranien pendant 10 ans contre les sanctions économiques. Donald Trump a dénoncé cet accord ainsi que sa situation. Durant la campagne électorale, le 12 janvier dernier, il avait donné un ultimatum aux pays signataires pour modifier l'accord, faute de quoi les États-Unis en sortiront désormais chose faite. Première question, Emmanuel Dupuis, que reproche Trump à cet accord ? Quelles sont les conséquences de la sortie des États-Unis ?
Alors, Donald Trump reproche beaucoup de choses à cet accord. Premièrement, qu'il soit signé par les Iraniens. Et c'est la principale raison d'être du courroux américain qui, depuis des années, et spécifiquement Donald Trump, et je rajoute son entourage, notamment son nouveau ministre des Affaires étrangères, Mike Pompeo, son nouveau conseiller national sur la sécurité nationale, qui voue une haine non pas aux Iraniens, mais au régime iranien, ou en tout cas cette forme d'islamisme chiite que le président Donald Trump a fustigé hier dans son intervention. Et d'où la contradiction, puisqu'il remet en cause un accord dont il ne vit absolument pas à remettre à sauter ou à démanteler ou à désarçonner le régime iranien, mais bien de contraindre le programme nucléaire militaire ou la possibilité que l'Iran se dote d'une militaire nucléaire, sachant que de nombreuses années, la France en est d'ailleurs une des principales responsables, l'Iran bénéficie d'un solide programme de nucléaire civil. Donc la première réponse à la question, c'est que la présence ou le retour de l'Iran, qui s'est malgré quelques considérations économiques sensiblement renforcées grâce à cet accord nucléaire, qui est le fruit de douzaines d'années de négociations diplomatiques, faut-il le rappeler, âprement discutées, point par point, et donc le président américain reproche tout simplement à l'Iran, il le reproche d'autant plus que ses principaux alliés, que sont Israël et l'Arabie Saoudite, notamment par la présence et par la personnalité du prince héritier Mohammed Ben Salman, se trouvent finalement sur la même ligne diplomatique et partageant un même agenda diplomatique qui vise à contenir l'Iran pour ce qu'elle présente, donc une autre forme d'islam, un islam chiite et non pas un islam sunnite, c'est le cas pour l'Arabie Saoudite, correspond à une forme de crainte que les mouvements que l'Iran soutient, notamment le Hezbollah au Soudan et le Hamas à Gaza, sautent militairement, frontalement et constituent une menace sécuritaire pour Israël. Bien évidemment, l'Arabie Saoudite voit d'un très mauvais œil les capacités pétrolières de l'Iran, qui sont tout à fait considérables, près de 18% des réserves gazières et un petit peu pour les réserves pétrolières, et bien évidemment le fait que l'Iran devient un courant économique. Donc tous ces éléments ont permis à Donald Trump d'utiliser et je pense que ça a son importance, que cet accord a été signé, était une réussite diplomatique et présentée comme la principale, si ce n'est la seule réussite diplomatique dans la zone Moyen-Orient, de prédécesseur Barack Obama. Donc tous ces ingrédients ont fait que, effectivement, le président Donald Trump, qui avait promis pendant sa campagne de déchirer ce qu'il présentait souvent comme l'accord le plus jamais signé par les États-Unis, et donc il y a aussi une part de politique intérieure, à quelques mois d'un scrutin de mi-mandat, dans lequel le président est fortement affaibli, pour lequel et à cause duquel le président est fortement affaibli par rapport à l'agenda que l'on sait, c'est-à-dire les accusations d'agression sexuelle et puis bien évidemment la question de l'ingérence russe dans la campagne de campagne qu'il a eu il y a déjà deux ans.
Merci Dupuis pour cette introduction. C'est très clair, on comprend mieux les raisons du courroux de Donald Trump. On reviendra tout à l'heure justement sur la longévité. Voilà, les Européens en tout cas, le président iranien Hassan Rouhani ont immédiatement réagi et cherchent, ils devraient se rencontrer prochainement, ils cherchent à conserver la validité de cet accord. Mais on va puisque c'est les principes de l'émission, mon cher Emmanuel, la parole aux auditeurs. On commence avec Malik. Qui est arrivé, le premier qui attend depuis un petit bout de temps. Malik, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Malik, bienvenue dans le journal des auditeurs.
Merci à votre invité. Bonjour à votre invité.
Je vous écoute.
Ok, moi, en fait, je regrette un peu la sortie comme ça, de façon unilatérale, d'un pays futile, les États-Unis d'Amérique. et qui met en fait fin presque à un accord qui, comme vous l'avez rappelé, a été obtenu après des longues négociations avec l'Iran, avec d'autres pays, d'autres puissances également, la Chine, l'Europe, la France et puis d'autres pays. Donc, moi, en fait, je regrette un peu comme ça qu'on nous brandisse un pays comme étant Satan, comme étant ceci. Et en fait, quand ce pays fait des accords pour avancer dans le sens de la paix, subitement, parce qu'il y a un régime dans un pays quelconque, on met fin à ce processus, en fait. Ça, c'est regrettable. Mais en fait, la réalité, c'est quoi? C'est qu'on prépare la guerre et on est déjà dans la guerre. On est dans la guerre. Ça commence au Yémen, en Syrie, et là, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai suivi dans les nouvelles, il y a eu des tirs d'Israël sur certaines positions de l'Iran en Syrie, en fait. Le problème, c'est qu'on veut aller à la guerre pour différentes raisons qui ont été très bien citées par l'invité. Et en fait, une alliance un peu contre nature, moi je trouve, hein, contre nature entre des pays, par exemple Israël, l'Arabie Saoudite, qui ont des intérêts divergents, qui ont des intérêts souvent divergents, mais là, qui, bah, en ce qui concerne l'Iran, on va dans la même direction. Et on sent en fait que la guerre, on est déjà dans la guerre. Malheureusement, moi je vois des petits signes. Il y a quelques jours, j'ai entendu que le Maroc, bizarrement, voilà, à ses relations diplomatiques ou quelque chose comme ça, l'Iran, il y a un pays, il y a des lignes qui sont en train de constituer entre partisans, les sunnites, Qatar, Soudan, en Afrique, on voit aussi, on demande à des pays de se ranger dans des blocs, où on fait pression sur des pays pour qu'ils se rangent dans des blocs, donc on est dans la guerre. Malheureusement, encore une fois, en fait, on va amener le monde dans une guerre dont on ne mesure pas les conséquences. Voilà, c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter. On aurait pu éviter les problèmes des chiites, les problèmes du chiisme, du wahhabisme. C'est des problèmes religieux. On n'a pas mis le monde dans ces conflits-là. Moi, je regrette en fait qu'on mêle le monde. Et puis, Israël ne va pas faire la guerre pour satisfaire aux besoins économiques d'Israël aussi. Donc, il faut maintenir la paix, il faut aller dans le sens de la paix. Donc, moi, je regrette fortement en fait que, voilà, et puis ça dit que, voilà, il y a des lobbies, et des lobbies très forts autour du président Trump.
Vous avez dit beaucoup de choses, Mick. Je vais demander à Emmanuel Dupuis peut-être de réagir à ce que vous voulez dire. Mais le point principal, et c'est ce qu'on entend un peu partout ce matin, c'est la crainte de la guerre. Emmanuel Dupuis, Emmanuel Macron, hein, a même évoqué aussi ces craintes-là. Qu'en pensez-vous? Et puis peut-être une réponse à Malik, Arabie Saoudite et Israël, hein, qui sont plutôt des alliés, peut-être pas si nature que ça, Emmanuel.
Alors moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Malik, et je vais reprendre un pourpoint ce qu'il a évoqué en approfondissant un petit peu. Il a parfaitement raison que la décision de Donald Trump est une première dans les relations internationales, puisque la première fois un pays signataire d'un accord multilatéral et international, gagé par une résolution, la résolution 2231 du Conseil des députés, c'est la première fois qu'un pays cède au regard de la légitimité internationale constituée des 95 pays appartenant au système onusien, décide de facto que sa voix est prépondérante sur 194 autres. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, là aussi, enfin de réponse de complément par rapport à ce qu'a dit votre auditeur, c'est le fait que, là aussi, les États-Unis partent du principe qu'ils sont juges de paix, alors même que l'accord nucléaire est un accord, donc contractualisé, dans lequel il est précisé qu'un pays peut décider des jurés raison sur les autres, donc les cinq autres, et que de facto, il avait été indiqué que c'est à l'Agence internationale de l'énergie atomique de vérifier si oui ou non l'Iran répondait à la simple question, est-ce qu'elle convient ou est-ce qu'elle convient, pardon, à la nucléaire. Premier élément, oui, on est dans une rupture.
Emmanuel Dupuis, je peux vous demander de faire des réponses très rapides parce que j'ai une dizaine d'auditeurs qui vont parler juste après. Allez-y.
Rapidement sur Israël.
Sur la guerre surtout.
Sur la guerre, bien sûr. Mais la guerre, elle a commencé évidemment depuis de nombreuses années. Elle a commencé quand, par exemple, au Yémen, l'Arabie Saoudite est impliquée militairement, au regard, là aussi, au regard d'une situation humanitaire absolument catastrophique qui fait qu'il y a, en plus des 10 000 morts que ce conflit a occasionné depuis 2014, risque de en péril de près de 7 millions d'habitants par rapport au blocus naval que met en application l'Arabie Saoudite. Pourquoi l'Arabie Saoudite est présente dans ce conflit? Parce qu'elle estime que l'Iran soutient la milice Houthi contre ses arguments, contre ses vrais. Deuxièmement, la nature contre, contre nature, si j'ose dire, l'élément contre nature de la relation entre Israël et l'armée. Et oui, étonnamment, c'est vrai qu'il y a une convergence de point de vue qui se fait sur le dos des Palestiniens. Et là,
mais c'est pas nouveau, ça, Emmanuel. Ce sont deux alliés des États-Unis qui...
Oui, c'est un petit peu nouveau dans le fait que l'Arabie Saoudite ne pouvait pas non plus tourner le dos à la solidarité pan-arabe au sein de la Ligue arabe. D'ailleurs, elle le fait fort sournoisement, si j'ose dire. Il y a trois semaines, c'est tenu la réunion, un sommet de Ligue arabe où il a été rappelé que les pays de la Ligue arabe étaient opposés, strictement opposés au transfert de la capitale, transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv, qui se produira le 14 mai. L'Arabie Saoudite a dit qu'elle était évidemment contre sa décision, mais quand le prince héritier s'est dit Washington, il a conseillé aux Palestiniens d'abandonner l'idée que Jérusalem Est devienne la capitale de Palestine. Donc il y a un double jeu, qui est un double jeu stratégique, qui vise à faire en sorte que l'Arabie Saoudite se rapproche des États-Unis, partant du principe que ce n'était pas gagné d'avance si Hillary Clinton avait été élu. Deuxièmement, un agenda sécuritaire fortement marqué par la personnalité de Benjamin Netanyahou qui cherche à trouver des ennemis pour étayer sa légitimité politique qui est mise en interne par rapport à la faiblesse de sa politique intérieure en Israël. Et puis bien évidemment, vous rappelez le fait que en Syrie, Yémen, on peut même rajouter par rapport à la crise depuis l'été dernier entre le Qatar et les quatre membres qui s'opposent au Qatar au sein du Conseil du Coupe du Golfe, une guerre latente qui ne vise pas directement à pouvoir affronter les États-Unis et l'Iran, ça j'y crois pas, contre un affrontement plus feutré, indirect, à travers le tir de missiles quotidien sur Riyad de la part des milices houthis, à travers les bombardements israéliens, vous avez évoqué Stéphanie, qui se sont déroulés quelques heures après la décision américaine de se retirer de l'accord du 14 juillet 2015, donc des installations du Hezbollah et les forces iraniennes présentes en Syrie, on voit bien qu'il y a un conflit latent.
Par procuration, on entend bien Emmanuel. Je vous remercie Emmanuel. On a perdu Archiduc qui n'a pas été assez patient. Le pauvre était par Jarina, on aurait bien voulu l'avoir. On va peut-être essayer de rappeler et on le prendra tout de suite, on le promet. Dans l'ordre d'arrivée, je remercie Malik, Abdel et William de patienter. Écoute, Kana. Bonjour Kana.
Bonjour, bonjour. Et pour rester dans la logique de votre invité de Malik qui est intervenu tout à l'heure, c'est tout à fait stratégique, c'est géostratégique et nous connaissons très bien l'hypocrisie de corps qui a été signé des années avant.
Pourquoi c'est l'hypocrisie, clairement... Là, je ne vois pas par rapport à ce qu'on a dit ici.
Non, mais parce que ça a été toujours comme ça aux États-Unis, ça a été toujours comme ça. Nous avons, les gens l'oublient très souvent, mais nous avons l'Iran, aujourd'hui c'est l'Iran, et nous avons la Syrie, et aujourd'hui c'est l'Iran. Mais c'est une géostratégie planifiée, et aujourd'hui, les puissances qui sont masquées sous forme de communauté internationale qu'on appelle l'ONU, la FMI et la Banque mondiale, chapeautent ce monde depuis des années, et c'est la force qui domine.
Désolé, Kana, de vous dire ça, mais on a quand même là 5 membres du Conseil de sécurité qui sont absolument pas d'accord entre eux. Cet accord a été ratifié par l'ONU. C'est les États-Unis cavaliers, pour le coup.
Oui, mais ça, c'est encore masqué. C'est comme ça, mais nous allons voir dans les années, dans les jours à venir, que tous ceux qui disent non, à part la Russie, vont rejoindre cette guerre-là qui est déclarée. Et j'espère que l'Iran souterrainement aussi s'armer, parce qu'aujourd'hui c'est la force qui domine, et qui sauront se défendre comme la
Vous inquiétez pas, Kana, l'Iran est équipé. On rappelle d'ailleurs que l'armée iranienne est déployée en Syrie. Merci, Kana. On va prendre plusieurs auditeurs et je reviendrai vers vous, Emmanuel Dupuis. On va écouter Abdel Wassim. Je rappelle le numéro 1 pour participer, 01 55 07 58 00. Abdel Wassim, depuis Montréal. Bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, merci beaucoup de me donner l'occasion d'intervenir.
Comment c'est perçu de ce côté-ci de l'Atlantique, ce retrait des États-Unis?
C'est tellement perçu, mais avec le président américain, on ne sait pas à quoi s'attendre à chaque fois. Vous avez vu avec la Corée du Nord, on était quelques jours au bout de Calais, mais on est arrivé vraiment ensuite avec les deux Corées qui s'unissent, et puis on voit le président Trump comme il s'y ajoute. On va le voir souffler du chaud sur trois autres côtés. On ne sait pas où est-ce qu'on va avec les chiens. Mais ce qui me craint beaucoup, c'est beaucoup plus son attitude à ramasser tout le monde qui veut faire autre chose que ce que j'y pense. Il veut donner des raisons à ça. Il se donne toutes les raisons. Et je crains le président Macron qui se fait son allié. Parce que d'ailleurs, il s'est dit, la communauté internationale, parce qu'il est avec Trump et puis Marisa May pour aller combattre la Syrie. c'est vraiment dommage. Avec le président américain, il ne faut jamais compter sur lui. Et son peuple désavoue à plus de 65% pour cet accord qu'il a déchiré. Nous voulons la paix dans ce monde-là. C'est un franguin, ce monsieur. Et il faut vraiment prendre des décisions. La communauté internationale, que l'ONU se dresse vraiment lui de façon radicale pour lui dire qu'on n'est pas à sa solde. Parce que quand ça va, le conflit commence, ça fait les innocents ailleurs, et lui, il se croit à l'abri. C'est vraiment dommage et triste pour beaucoup de pays, surtout les pays occidentaux de la communauté de l'OTAN, qui ça et qui ne peuvent pas réagir vraiment de façon décisive. Parce qu'ils sont aussi menacés. Les intérêts, vous savez, Airbus a vendu des avions sans en Iran. Et il menace les accords commerciaux que les autres ont fait avec les gens parce qu'ils ne veulent pas partir dans ce sens-là.
C'est intéressant, effectivement, des accords commerciaux, parce que si, merci beaucoup Abdel, ainsi les États-Unis reprennent leurs sanctions contre l'Iran, toute entreprise, qu'elle soit américaine ou non, travaillant avec l'Iran sera sanctionnée. Emmanuel Dupuis, bien ça, ce retrait de l'accord, c'est un coup dur pour les entreprises françaises qui sont arrivées à Téhéran?
Alors, non seulement pour les entreprises françaises, mais pour toutes les nombreuses entreprises occidentales qui ont cru qu'avec la lutte des sanctions à partir du 16 janvier 2016, il y avait une opportunité économique évidente. L'Iran est un pays de 80 millions d'habitants avec un taux d'éducation très fort. L'augmentation du nombre d'étudiants l'année dernière a dépassé les 2%, et donc avec une envie de consommation importante. Alors, vous avez raison de dire que derrière la déchirure de l'accord sur le nucléaire, il y a la question économique. Et cette question économique, elle est déterminante, non pour la relation que les États-Unis entendent désormais dicter à l'Iran ou à la Russie par rapport aux sanctions qui ont été engagées après 2014, mais la relation que nous, pays occidentaux, nous avons avec les États-Unis. Posons simple, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le principe de l'extraterritorialité du droit, qui fait que, à partir du moment où toutes les transactions internationales économiques sont traitées en dollars, je le regrette, elles ne sont pas traitées en euros. À partir du moment où toutes ces transactions sont faites en euros, le Trésor américain a la possibilité de bloquer ou a la possibilité de poursuivre et de sanctionner les entreprises qui contreviendraient à cette réalité. Je ne prends qu'un exemple puisqu'il concerne l'Iran. En 2013, je crois, ou en 2012-2013, peu importe la date, la société bancaire française BNP Paribas a été pris la main dans le sac. Et comme elle avait, avant l'accord nucléaire, avait été utilisée pour permettre à les entreprises françaises d'être présentes sur le territoire iranien, la justice américaine l'a sanctionné de milliards de dollars. Donc vous voyez bien qu'il y a cette épée de Damoclès supplémentaire à contraindre les nombreuses entreprises françaises. Bon, les trois principales, Renault, par exemple, qui a, par exemple...
On parle de Lafarge aussi, non, qui est en Iran?
Alors, Lafarge y est, bien sûr, mais les trois principales, c'est dans le secteur automobile, Renault et PSA. PSA, il y a réengagé deux unités de construction automobile, partant du principe que les voitures françaises, avant le début des sanctions en 2006, représentaient 40% du parc automobile iranien. Ou par exemple les 150 000 voitures que Renault a produites déjà depuis la levée partielle des sanctions. Alors, la France n'est que le quatrième partenaire économique de l'Iran, avec un volume d'exportation qui est relativement bas pour l'instant, un peu plus de 1 milliard d'euros, en l'occurrence 1,2 milliard d'euros, mais il y a surtout les perspectives économiques. Les Airbus que France a vendu à l'Iran, avec un contrat de 17,5 milliards d'euros. Et puis, bien évidemment, c'est important, puisqu'on évoquait les questions du pétrole, le méga contrat que Total a signé récemment avec l'Iran, en l'occurrence, un contrat de 5 milliards de dollars pour l'exploitation du plus champ gazier mondial, qui s'appelle South Pars, pour la 11e tranche de ce projet, a signé de manière tripartite avec les autorités iraniennes et les autorités chinoises. Et donc, je réponds très concrètement à votre question en disant qu'il y a un risque pour que les entreprises françaises ne peuvent plus faire du business avec l'Iran, quoique, puisque les États-Unis ont laissé une note transitoire de 90 jours à 120 jours pour les entreprises qui ont déjà initié des partenariats ou qui étaient en train de le faire, se mettre, entre guillemets, à jour. Vraisemblablement, la France veut pousser à ce qu'il y ait 6 mois de délai pour que les entreprises françaises puissent se rôner, si j'ose dire. Mais il y a bien évidemment un autre effet, c'est que si la France, ou comme d'autres pays, craignant ce principe de l'extraterritorialité, prend du principe que si une entreprise qui veut faire du business en Iran est également présente aux États-Unis, la question se pose de savoir s'il faut garder ses acquis aux États-Unis ou faire le pari. Mais d'autres pays comme la Chine ne se posent pas la question. Et in fine, cet accord, et là aussi, Donald Trump est dans la contradiction la plus absolue quand il veut contenir la puissance économique chinoise qui inexorablement rattrapera, si ce n'est dépassera, l'économie américaine. Il rend un énorme service aux entreprises chinoises, aux entreprises russes, parce que s'il y a une fermeture du point de vue occidental, il y a une solidarité de fait qui est en train de se créer contre tous ces pays, en y ajoutant la Turquie. Et donc c'est un énorme cadeau économique. Finalement, le président américain fait à ses adversaires économiques, la Chine et la Russie.
Eh bien, justement, ça m'amène à notre prochain auditeur, William, qui a une question à vous poser, en demandant justement si Trump n'avait pas commis une faute grave. Alors, je ne sais pas si William fait référence à l'économie chinoise, mais il va nous le dire. William, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à votre invité, M. Dupuis, et à tous.
Bonjour William, bienvenue dans le JDA. Vous pensez à quoi quand on commet une faute grave?
On parle des promesses orales que Trump avait faites pour cet accord qu'il allait en fait retirer les États-Unis. Mais moi, je pense que la politique, c'est pas quand on est chef d'État, on est deux grandes puissances comme les États-Unis. Il y a une faute effectivement politique à ne pas commettre. Donc moi, c'est la question que je vais poser à M. Dupuis. Si c'était pas une faute grave.
Ça rejoint.
Et en même temps, Fanny. Est-ce que Donald Trump est en train de se rendre compte qu'il est écarté du jour au jour de la scène internationale? Et il a manqué aussi d'un côté, je dirais, le respect à tous ces pays membres qui ont fait cet accord, qui ont quand même fait des efforts pour faire signer.
Bien sûr. Dans quelques minutes, William, on entend bien, on va demander une réaction. Emmanuel Dupuis demande si Trump n'a pas commis une faute politique grave. Ce qui est sûr, en tout cas, avec cette décision, c'est les États-Unis montrent une fois de plus que le multilatéralisme, ce n'est pas leur truc. Moi, j'avais plutôt une question, Emmanuel Dupuis. Au lieu de faute politique, ne faut-il pas voir derrière ce retrait de l'accord la mainmise des néoconservateurs, non, américains, ceux qui étaient à l'origine de la guerre de Bush-Irak?
Absolument, ce sont les mêmes. Alors, ce ne sont pas les mêmes nominativement. Dick Cheney n'est plus là. Ce sont d'autres néoconservateurs, d'autres faucons, dont on les noms. Je les ai dit au début de mon intervention, Bolton, ancien ambassadeur américain aux Nations Unies, devenu le conseiller national pour la sécurité et le placement du général McMaster. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Mike Pompeo, qui a remplacé Rex Tillerson. Pourquoi a-t-il remplacé Rex Tillerson? Parce que Rex Tillerson s'était rendu dans la même ligne que son prédécesseur John Kerry en disant que cet accord économique allait être bon et bénéfique, même pour les entreprises américaines. Quand je disais que la France a signé en janvier dernier à Lyon, en juillet 2019, pardon, à l'occasion de la visite du président Rouhani à Paris, un contrat de 17 milliards d'euros, 118 Airbus, Boeing avait signé le même contrat pour une centaine d'Airbus, une centaine d'appareils également. Donc, il y a effectivement autour du président, et je rajoute bien sûr le gendre du président, Jared Kushner, en proximité d'Arabie Saoudite, dont la filiation et la proximité intellectuelle avec certains conservateurs ou néo-conservateurs israéliens, fait qu'il y a une vision de la politique qui est celle d'une vision va-t-en-guerre, qu'aboutit d'imposition de la puissance, voulant contraindre ou voulant positionner un agenda non pas international ou non pas, même pas occidental et même pas otanien, parce que là c'est grand, de l'OTAN, beaucoup, la plupart des pays de l'OTAN sont contre la position américaine. Donc on ne peut pas me dire qu'il y a une force été contre le reste du monde, il y a une petite posture de la part de l'environnement immédiat de Donald Trump qui est dangereux au sens propre du terme, qui peut nous amener un nouveau conflit, ou du moins qui pourrait nous amener vers une conflit où les Israéliens, peut-être les Saoudiens, seraient de plus en plus enclins à s'opposer à l'Iran. Je termine en répondant même plus précisément à la question de votre auditeur. Oui, Donald Trump a sans doute commis une erreur monumentale. Un récent sondage qui est paru, il y a de cela, 3 semaines, précise que l'image des États-Unis s'est énormément détériorée depuis l'élection de Donald Trump. 73% l'image de la jeunesse arabe, c'est un sondage qui intéresse les jeunes appartenant à 16 pays, donc les 16 pays de la Ligue arabe, entre 18 et 24 ans.
L'image qu'ils ont des États-Unis.
Et de Donald Trump. Ouais. Pour 73% de cette jeunesse arabe, donc rurale, celle qui fait la révolution, celle dont, malgré tout, dépend l'avenir économique et l'avenir réformateur de l'Arabie Saoudite, dans la perspective du plan 2030, le plan de vision 2030 du prince héritier. Bref, 73% estiment que Donald Trump est un danger pour l'avenir de la région, confirme le fait qu'ils font davantage confiance dans la Russie plutôt qu'aux États-Unis, et je livre ces chiffres. En 2017, les États-Unis étaient considérés un allié pour 63% de ces sondés, et un ennemi pour 32%. Et quelques semaines, il y a quelques semaines de ça, mais je pense qu'après l'accord, le chiffre aura cru de manière exponentielle, 57% de la population estime que les États-Unis sont devenus l'ennemi. Donc on voit qu'il y a une inversion de la courbe. Donc bien évidemment, là où Barack Obama avait réussi malgré tout à fédérer l'ensemble des pays, même s'il y a beaucoup de choses à dire.
Ou même, Emmanuel, ce qu'on disait, c'est de faire redevenir l'Amérique stable aux yeux du monde. Il y avait ça dans
Je pense qu'en tout cas, en quelques mois, Trump a totalement annihilé cette velléité au sein même de la communauté arabo-musulmane et même au-delà.
C'est très clair. Merci beaucoup, Emmanuel Dupuis, d'avoir été notre invité. Je rappelle, vous êtes président de l'IPSE, c'est l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. On peut dire un think tank, comme on dit aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, Emmanuel.
Merci beaucoup à vous et à vos auditeurs.
Merci à vous. À bientôt, Emmanuel. Archéduc nous disait, on n'a pas pu prendre Archéduc, mais il nous disait sur Facebook, Donald Trump est en train d'user d'une autre stratégie pour combattre l'Iran, sachant que les États souhaitent rester éternellement des premières puissances, hein, c'est ce que disait notre invité, Kabiloté lui disait, l'accord obtenu par Barack Obama n'arrangeait pas les États-Unis. Donald Trump, comme la plupart des Américains, ne font pas confiance à l'Iran. Si la Corée Nord effraie tout le monde déjà avec son nucléaire, on n'a pas besoin de l'Iran. Que l'Iran s'ajoute à la danse, nous dit Kabiloté. Le Kabilo, on pourra revenir sur ce sujet vendredi dans la libre antenne. On se donne rendez-vous plutôt demain, avant ça, jeudi, pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. Nous serons en direct et nous parlerons du Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou qui se tiendra à l'automne prochain. Pour vous inscrire, hein, envoyez-nous un mail à jda@africa1.com. Vous pouvez aussi nous faire vos suggestions de sujets. En attendant de vous retrouver demain en direct, prenez grand soin de vous et des autres aussi, surtout à l'écoute d'Afrique numéro 1, la seule unique radio africaine. À demain.